monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgan Guiriec et Eric Manilakidza en direct de la capitale américaine. Mardi 12 février 2019, Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel, au sommaire ce soir.
Au Sénégal, arrestation de plus de 20 personnes et saisie d'armes dans l'est du pays.
Le président tchadien Idriss Déby tient en visite dans l'est de son pays après la percée d'une colonne rebelle venue de Libye.
Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto et ses partisans privés de visite de leurs avocats.
Dans l'est de la RDC, 4 miliciens tués dans une contre-offensive de l'armée.
Et ici aux États-Unis, les parlementaires ont trouvé un accord de principe permettant d'éviter une nouvelle paralysie partielle des agences fédérales.
Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal.
Au Sénégal, le procureur du tribunal de grande instance de Tambacounda s'est exprimé sur les affrontements meurtriers ayant opposé des membres de la majorité présidentielle aux partisans du candidat du parti de l'unité et du rassemblement pur. Le bilan initial de 3 morts a été revu à la baisse. De Dakar, le point avec Seydina Abagay.
Le procureur du tribunal de grande instance de Tambacounda a annoncé l'arrestation de 24 membres de la sécurité du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur. Ils ont été interpellés par une compagnie de gendarmerie avant d'être déférés au parquet de Tambacounda. Selon le procureur, des armes blanches, des gourdins et des machettes ont été retrouvées dans leur véhicule après des fouilles. Il indique également que 27 journalistes ont été auditionnés comme des témoins. Le procureur a aussi affirmé que la lumière sera faite sur ces crimes et que leurs auteurs seront punis conformément aux dispositions de la loi. Les affrontements entre militants de Benno Boko Yakar et ceux du Parti de l'Unité et du Rassemblement pur ont occasionné 2 morts officiellement, obligeant le candidat Issa Sall du Parti de l'Unité et du Rassemblement à suspendre sa campagne. De retour à Dakar, il a promis de faire une déclaration ce mercredi 13 février.
À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
4 veuves nigérianes ont intenté une action en justice aux Pays-Bas contre le géant pétrolier Shell pour complicité présumée dans l'exécution de leur mari par le régime militaire nigérien dans les années 90. Amnesty International soutient cette action, mais le géant pétrolier nie toute implication dans l'exécution de ces hommes.
L'opposant camerounais Maurice Kamto et plusieurs de ses partisans sont privés du droit de visite et d'assistance de leurs avocats. Le collectif de la défense dénonce une entrave à l'exercice professionnel des avocats et une violation grave des droits fondamentaux de leurs clients. Il indique que cette privation s'applique aux partisans de M. Kamto qui sont détenus dans 3 unités spéciales de la police et de la gendarmerie camerounaise.
En Centrafrique, l'ONU enquête sur un cas présumé de torture par des militaires ou mercenaires russes. Ils auraient torturé au couteau un homme pendant 5 jours dans leur base à Bambari. Le rapport onusien est accompagné de photos montrant la main mutilée de l'homme ainsi que son dos portant de nombreuses cicatrices. En juillet 2018, 3 journalistes russes enquêtant sur la présence de Wagner, un groupe militaire privé russe en République centrafricaine, ont été assassinés dans des circonstances non encore élucidées.
En Centrafrique toujours, le gouvernement a créé un comité de 5 ministres pour répondre aux revendications des militaires retraités. Depuis plusieurs mois, quelques dizaines de ces ex-militaires bloquent à intervalles réguliers et certains ronds-points de Bangui, estimant ne pas être aidés dans leur reconversion.
Le groupe armé tchadien visé par des frappes françaises en début de ce mois dans le nord-est du Tchad avait l'intention de renverser le président Idriss Déby Itno qui a sollicité l'aide de Paris pour éviter un coup d'État. C'est ce qu'a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Le point avec Nanit Talani.
Il y a eu une attaque d'un groupe rebelle venu du sud libyen pour prendre le pouvoir par les armes à N'Djamena et le président Déby nous a demandé par écrit une intervention pour éviter ce coup d'État et pour protéger son propre pays, a affirmé Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale française. Fin janvier, des rebelles de l'Union des forces de la résistance sont entrés au Tchad depuis la Libye où ils étaient basés. À la demande de N'Djamena, la France a annoncé avoir procédé à 3 reprises à des frappes de Mirage 2000 contre leur colonne de pick-up. Pour le ministre Jean-Yves Le Drian, cette intervention française est tout à fait conforme au droit international. il y a quelques jours, l'opposition tchadienne fustigeait une intervention dangereuse et illégitime. Le groupe armé UFR, né en 2009, est à l'origine d'une tentative de putsch en 2008, stoppée in extremis aux portes du palais présidentiel de N'Djamena grâce à l'appui de l'allié français.
Le président Idriss Déby Itno est en visite à Abéché, la principale ville de l'Est, pour s'enquérir de la situation sur le terrain. L'Est et le Nord-Est tchadien ont été par le passé théâtre de nombreux affrontements entre rebelles tchadiens et forces loyalistes à N'Djamena.
4 miliciens ont trouvé la mort dans une contre-offensive de l'armée congolaise dans la région de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée dit avoir mené l'opération pour stopper une incursion des ADF. Elle affirme également avoir réussi à libérer 4 otages. Les dernières tueries du 9 janvier attribuées aux ADF à Beni ont fait 10 morts. Depuis 2014, il y a eu plusieurs centaines de morts parmi la population locale.
Au Kenya, une militante engagée dans la dénonciation des exécutions extrajudiciaires disparue depuis une semaine a été retrouvée dans une morgue de Nairobi. D'après la police, elle avait tenté d'avorter, une pratique interdite dans le pays.
Les autorités marocaines ont arrêté 3 Français à Salé, près de la capitale, Rabat, pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme. Ils sont aussi soupçonnés d'implication dans la collecte de fonds au profit de milieux extrémistes en vue de financer des opérations terroristes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, un groupe bipartisan de parlementaires a annoncé avoir trouvé un accord budgétaire de principe pour éviter un nouveau shutdown avant vendredi. Le point avec Abdrahman Dia.
Le compromis est une percée dans les négociations au Congrès où le pessimisme régnait encore jusqu'à hier soir. Il prévoit 1,3 milliard de dollars pour construire environ 90 kilomètres de nouvelles barrières à la frontière, ce qui est loin des 5,7 milliards que le président réclamait pour la construction d'un mur. Mais le ministère de la Sécurité intérieure, en charge de la protection des frontières, verra une hausse importante de son budget. Le président Donald Trump n'a pas encore dit s'il allait accepter ce compromis, mais des médias américains, citant des sources à la Maison-Blanche, ont indiqué que s'il signe ce budget, il va certainement déclarer l'état d'urgence afin de trouver des fonds dans d'autres programmes pour compléter le financement du mur. Le commentateur de Fox News, Sean Hannity, un proche du président, a qualifié l'accord de principe des parlementaires d'ordure. Hier, lors d'un rassemblement à El Paso, dans le Texas et pas loin de la frontière mexicaine, le président a réitéré que le mur allait être construit. « Nous avons besoin d'un mur et nous le construirons rapidement », a-t-il dit devant des milliers de ses partisans.
Offensive dans la province de Deir ez-Zor en Syrie, de violents combats se poursuivent entre les forces arabo-kurdes, soutenues par Washington, et les djihadistes du groupe État islamique retranchés dans leur ultime réduit de l'Est syrien. Les 500 à 600 djihadistes, acculés dans une poche de quelques kilomètres carrés, livrent une résistance farouche et les civils continuent de fuir par centaines.
En Turquie, en moins de 729 personnes soupçonnées de lien avec le prédicateur Fethullah Gülen ont été arrêtées à travers le pays. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Ces arrestations font suite à l'envoi par le parquet d'Ankara des noms de 1112 personnes soupçonnées de lien avec la confrérie Fethullah Gülen aux autorités de certaines provinces. Le parquet a annoncé que c'est en rapport avec une enquête sur la fuite du sujet d'un examen d'entrée dans la police en 2010. Ce nouveau coup de filet survient alors que les purges lancées après le putsch manqué de juillet 2016 se poursuivent avec des centaines d'arrestations par semaine. Dimanche, Süleyman Soylu, ministre de l'Intérieur, a prévenu qu'une nouvelle opération d'envergure est en préparation contre les partisans de Gülen, ajoutant, je cite, « Nous les éradiquerons de ce pays ». Des dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées depuis le putsch manqué et plus de 140 000 limogées ou suspendues. Les autorités accusent Fethullah Gülen d'avoir créé un état parallèle pour renverser le gouvernement. Elles le soupçonnent aussi d'être le cerveau de la tentative de coup d'état du 15 juillet 2016, ce que rejette le prédicateur qui réside aux États-Unis depuis une vingtaine d'années.
L'OTAN prépare des mesures dissuasives pour renforcer la défense de son territoire contre la menace des nouveaux missiles russes à capacité nucléaire. Tous les alliés sont préoccupés par la disparition du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire, conclu en 87 par Moscou et Washington, est devenu la pierre angulaire pour la sécurité en Europe. C'est ce qu'a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, à la veille d'une réunion des ministres de la Défense de l'Alliance.
Afghanistan, les talibans disent avoir formé une équipe de 14 négociateurs avant la prochaine série de pourparlers de paix avec les États-Unis fin février au Qatar. Leur dernier pourparler avait porté sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan en échange de l'assurance par les talibans que le pays ne sera pas une base arrière terroriste.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée par Nani Talani.
L'économie du Nigeria a progressé de 1,9% en 2018. D'après le Bureau national des statistiques, la croissance du PIB a accéléré en fin d'année, s'établissant à 2,38%. Le secteur non pétrolier a progressé de 2%, alors que le secteur pétrolier a progressé de 1,14%. Le Nigeria prévoit une croissance économique de 3% en 2019, tandis que le FMI l'a récemment estimé à 2% dans ses prévisions. Le Parlement européen vient de valider le nouvel accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc. Il prend en compte le Sahara occidental. Il spécifie aussi que l'accord doit profiter à la population locale. Ce partenariat permet aux navires des 11 membres de l'Union européenne pêchant des espèces pélagiques et démersales d'accéder à la zone de pêche marocaine en échange d'une contribution économique. Enfin, pour promouvoir les investissements, l'Ouganda fait appel à l'argent mobile qui permet aux abonnés de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements via leur téléphone mobile. Les Ougandais ayant des comptes d'argent mobile mais avaient un accès limité aux banques seront désormais en mesure d'effectuer eux-mêmes leurs opérations d'investissement.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le sélectionneur historique du MENA Junior a démissionné, n'est-ce pas?
Oui, Soumaïla Thiemougo, en charge des cadets et des juniors, a démissionné de son poste après l'échec à la CAN des moins de 20 ans avec l'élimination du Niger au premier tour à domicile donc. Il était en fonction depuis 3 ans et a porté son pays sur des hauteurs jamais atteintes jusqu'à présent avec une demi-finale à la CAN des U17 en 2017, puis un 8e de finale au Mondial des moins de 17 ans la même année.
Et en Ligue africaine des champions, Al Ahly a été surpris en Tanzanie.
Oui, le groupe D est totalement relancé. Les Tanzaniens de Simba ont en effet créé la sensation en s'offrant le scalp d'Al Ahly 1-0 à Dar es Salaam à l'occasion de la 4e journée de la phase de poule. Le Rwandais Mehdi Kagere a inscrit le seul but de la partie à la 65e pour permettre aux Tanzaniens de revenir à un point du leader Kairot à 2 journées de la fin de cette phase de poule. Ailleurs, l'Espérance de Tunis a pris le meilleur sur les Orlando Pirates 2-0 malgré le huis clos imposé par la CAF au sang et or. Avec cette victoire, le tenant du titre s'échappe en tête de la poule avec 3 points d'avance sur sa victime du jour.
Parlons toujours de la Ligue des Champions, mais cette fois-ci en Europe, l'affiche PSG-Manu.
Et oui, le Paris Saint-Germain se déplace ce soir sur la pelouse de Manchester United à 20h temps universel en 8e de finale aller. Des 3 vedettes de l'attaque parisienne, la fameuse MSN, Mbappé, Cavani et Neymar, il n'y aura que Kylian Mbappé à Old Trafford, Cavani et Neymar étant blessés. En face, Manchester United s'est ressaisi depuis le limogeage de José Mourinho et se porte mieux. Dans l'autre rencontre, moins prestigieuse sur le papier en tout cas, l'AS Rome reçoit Porto au stade olympique.
Et demain, on aura la suite de cette Ligue des Champions. Le Real Madrid se déplace à Amsterdam.
Oui, longtemps au ralenti, le Real Madrid a retrouvé de l'allant au meilleur moment pour débuter la défense de sa triple couronne à Amsterdam contre l'Ajax en 8e de finale aller. L'histoire penche du côté du Real. Jamais les Espagnols n'ont été éliminés en 8e depuis 2010, quand les Ajaxides n'ont plus vu les cas depuis 2003. De leur côté, les Allemands du Borussia Dortmund rendent visite à Tottenham sans leur meilleur buteur Marco Reus touché à une cuisse. Les Spurs déplorent eux aussi de grosses pertes sur leur ligne offensive. Harry Kane et Dele Alli sont blessés.
C'était l'espoir de Yacouba Ouédraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec et Eric Manirakiza. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour.
En Côte d'Ivoire, en prélude à l'élection présidentielle de 2020, le gouvernement a entamé des discussions avec les partis politiques en vue de la réforme de la commission électorale, une exigence de l'opposition. Les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunka.
Entamées le 21 janvier dernier en présence du Premier ministre, les discussions entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques de l'opposition devraient bientôt reprendre. Ces partis politiques avaient jusqu'au 4 février pour remettre leurs propositions, première étape avant les discussions de fond. Regroupés autour du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, une vingtaine de formations politiques de l'opposition ont déjà fait connaître leur position quant à la réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Henri Niava, président de l'USD, l'Union des sociaux-démocrates, l'un des partis membres de l'opposition.
Nous estimons que la question de la CEI, il ne peut pas concerner seulement la recomposition ou la réforme de la CEI, il doit toucher l'ensemble de l'environnement institutionnel des élections, c'est-à-dire tout le cadre juridique et institutionnel, à savoir les organes de régulation, d'arbitrage et de gestion du contentieux que sont la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, la liste électorale, la cartographie électorale et le code électoral. Donc, tant que ces questions ne sont pas dans un package analysé, débattu ensemble, l'opposition n'est pas partie prenante.
Ces partis politiques émettent également des réserves quant à la méthode proposée par le gouvernement. Henri Niava.
Le gouvernement nous a dit de faire chacun nos propositions et de les lui envoyer. Nous avons proposé que ce soit un large débat national impliquant toutes les forces vives structurées qui nous permettent donc d'avoir toute la nation rassemblée. À partir de là, nous pensons que les discussions peuvent être profondes et qu'au sortir, nous pouvons avoir des choses qui correspondent à la vision et aux espérances de toutes les composantes de la nation.
Partie prenante de cette discussion, les organisations de la société civile ont multiplié ces derniers jours les rencontres afin de dégager une position commune sur la réforme de la CEI. Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire.
C'est tout le processus électoral qui doit être réformé, c'est-à-dire la liste électorale, le code électoral, le découpage électoral, la composition de la CEI et aussi et surtout l'articulation administrative, politique et juridique des CEI locales.
La réforme de la commission électorale indépendante est depuis quelques années au centre du débat politique ivoirien. L'opposition en fait un préalable en vue de sa participation à la présidentielle de 2020. Pour elle, l'actuelle commission est déséquilibrée en faveur du pouvoir. Un constat partagé par la Cour africaine des droits de l'homme qui avait été saisie par une organisation de la société civile. La Cour avait alors, en 2016, ordonné aux autorités ivoiriennes la réforme de la dite commission. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Bonsoir à tous, c'est Kia Badou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h50 temps universel dans votre émission interactive « À votre avis ». Au Mali, dimanche dernier, lors d'un rassemblement de prières et de bénédictions pour la paix et la réconciliation, la communauté musulmane a exigé la démission du Premier ministre. Alors que pensez-vous de l'implication des religieux en politique? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33. Je répète, 001 202 205 26 33. À tout à l'heure à 18h05 en temps universel.
Au Mali, plusieurs imams ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes dimanche dans un stade de Bamako. Les leaders du Haut Conseil islamique ont notamment réclamé le départ du Premier ministre, Oumeilou Boubey Maïga. Idriss Fall a joint le rappeur malien Ismaïla Doukoulé, alias Master Soumi.
Je ne sais pas spécifiquement s'il y a des problèmes personnels entre les responsables du Haut Conseil islamique et le chef du gouvernement, Oumeilou Boubey Maïga. Mais l'arrogance du pouvoir, le mépris du pouvoir vis-à-vis de la société civile, de la population malienne et vis-à-vis des leaders d'opinion, et toute cette contestation part de cela.
Mais est-ce que c'est à des imams de demander qu'on change le chef du gouvernement? Est-ce que c'est leur rôle?
Mon frère, en réalité, ces imams-là, d'abord, c'est des citoyens maliens. Ils ont le droit de protester, ils ont le droit de contester la manière de faire du pouvoir. Mais maintenant, pourquoi l'imam demande le départ du gouvernement. En réalité, le poids et le statut que nos leaders religieux ont aujourd'hui, c'est une attribution pure et simple du pouvoir. Quel est l'homme politique malien qui ne fait pas la courbette devant les mosquées au Mali, qui ne court pas derrière ses religieux pour avoir de l'électorat, pour avoir l'accompagnement de leurs fidèles, pour demander à leurs troupeaux de voter pour X ou Y? Quel est l'homme politique malien qui ne va pas, même souvent en catimini, chez ces leaders religieux-là pour leur donner de l'argent, pour qu'ils mobilisent pour eux? Nos hommes politiques s'appuient sur ces leaders religieux pour accéder au pouvoir. Ils ont fabriqué leur propre monstre, nos responsables politiques. Le pouvoir a fabriqué son propre monstre.
Mais le monstre ne se tait pas, parce qu'on se rappelle sous Amadou Toumani Touré, ce sont ces mêmes imams qui ont fait reculer le code de la famille, qui relègue la femme à l'arrière-plan de la société.
Oui, mais écoutez, lors de ces différents meetings contre ce projet de Amadou Toumani Touré, qui est qui était au lieu du meeting, parlant des hommes politiques? Monsieur Ibeka, l'actuel président du Mali, son Excellence Ibeka, il était à ce meeting. Donc ils se sont toujours appuyés sur ces hommes-là pour accéder au pouvoir. La question, elle est claire. Qui a appelé à voter pour Ibeka en 2013? Ibeka était très fier d'aller tendre sa tête sous les mains du shérif de Nyorobouye pour qu'il lui fasse des bénédictions. Ibeka était fier de collaborer avec ses Mahmoud Duko, avec tous ces autres imams-là, tous ces leaders religieux du Mali.
Master Soumi, je ne vais pas vous laisser partir sans que vous me fassiez un freestyle en direction de la jeunesse du Mali et en direction de la jeunesse africaine.
Yo, pour une Afrique unie, Kadhafi est puni, le Mali aussi, parce que ami de la Libye. Kadhafi est parti parce que trahir sa patrie pour sa propre survie n'a pas été sa vie. Le sous-sol qui console le monopole du pétrole, seulement sans protocole pour aller sauver ses cols. Kadhafi a dit non, il fut un démon. Kadhafi refusa, résistant, on le tua. Benghazi mal parti, l'État nazi choisi au profit de la bourgeoisie, on regrette Kadhafi. Big up, galé du système.
Voilà, c'était le rappeur malien Ismaïla Doukoulé, alias Master Soumi.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Commémoration au Burkina Faso de la journée des légumineuses. Les coopératives de production et de transformation formées en majorité de femmes, veulent revaloriser la filière et amener les ménages ruraux à en tirer profit pleinement. Néanmoins, cette filière manque de moyens adéquats et en appelle au soutien de l'État. La correspondance de Issa Napon depuis Ouagadougou.
Les associations de production et de transformation des fruits et légumes étaient dans la petite commune de Mégué, dans la région du plateau central du pays, pour la rencontre dédiée à la filière. Pour la présidente de la coopérative Ségrenomar et transformatrice du Kourouégo, beaucoup de produits sont transformables si les moyens techniques suivaient, soutient Aguira Sawadogo devant son étal.
Nous, on transforme les produits forestiers non liés, à savoir le beurre de qualité, il y a l'huile de balanites, les différents biscuits. Il y a les biscuits à base de farine de néré, les biscuits à base de farine de feuilles de moringa. Il y a le zamné, il y a le soumbala. Nous faisons les jus de tamarin, les sirops de tamarin. Nous transformons les raisins en sirop. Et il y a les difficultés, surtout au niveau de la transformation, parce que le matériel que nous disposons ne sont pas de matériel adéquat.
Ce souci lié au travail manuel, pénible pour fournir des produits finis de bonne qualité, se pose aussi dans la commune de Pau, d'où vient la transformatrice Alira Alimata de l'association Wematou.
Le produit que moi j'ai présenté là, c'est sombala de soja, savon de soja, gâteau de soja, et puis toffelet de soja aussi. Nous, on a travaillé avec les mains. Il n'y a pas maître. Il y a beaucoup de difficultés aussi.
Les difficultés ont été portées par le président de la Chambre régionale d'agriculture. Pour Moussa Kone, il est important de renforcer certains domaines de la filière en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire et à l'amélioration des conditions de vie des acteurs de la filière en majorité des femmes.
Parmi ces contraintes, la faible capacité organisationnelle et le fonctionnement des structures de la filière. L'accès difficile aux intrants et équipements de production. Le coût élevé des technologies innovantes d'irrigation telles que l'irrigation goutte à goutte. Le faible accès aux technologies post-récolte, manque d'infrastructures de stockage et de transformation. Et enfin, l'absence de financement adapté.
Le manque de formation des acteurs dans leur domaine est aussi revenu sur la table. Safiatou Dadjouari, présidente du groupement Zamalafia, a dû apprendre de ses erreurs, se souvient-elle.
Les nouveaux produits que je viens vous présenter, par exemple, soja, mung bean et pois de terre, là, ça c'est un produit que je viens de découvrir d'abord et j'ai essayé et ça a donné. Mais au début, la première fois, j'ai eu difficulté, j'ai jeté et c'est la deuxième fois là que j'ai pu réussir.
Venu soutenir la filière, le Premier ministre Christophe Dabiré s'est voulu rassurant sur la volonté du gouvernement burkinabé d'apporter son concours pour accélérer la professionnalisation du secteur.
Un des gros problèmes que nous avons dans ce pays, c'est le problème de la spécialisation. Nous devons réfléchir à cette question-là. Ceux qui sont chargés de la transformation iront chercher les outils appropriés pour pouvoir mettre sur le marché des produits de qualité.
Pratiquée par près de 70% des ménages agricoles et ruraux, la culture des légumineuses génère des revenus pour les ménages pour près de 4 milliards de francs CFA par an selon les chiffres officiels. Elles sont cultivées pour leur qualité nutritionnelle et contribuent à améliorer l'état nutritionnel des personnes vulnérables. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Hier soir, à El Paso, au Texas, le président Donald Trump a réitéré sa demande d'un mur à la frontière sud avec le Mexique. Son financement reste le point de désaccord entre le chef de l'exécutif et les démocrates. Alors que Washington discute de l'immigration clandestine, une recrudescence du nombre de demandeurs d'asile rassemblés à la frontière avec le Mexique divise le Congrès, mettant à rude épreuve les ressources des deux pays. Un reportage de Mike O'Sullivan, récit Raïssa Girondin.
Le président Donald Trump persiste et signe. Le problème, c'est la criminalité. Il a comparé l'augmentation des homicides des deux côtés de la frontière. El Paso est presque la ville jumelle à Juarez, au Mexique.
Last year, Juarez had 1,200 murders.
Cette année, 1200 meurtres ont été commis à Juarez et 23 juste à côté, à quelques mètres de là, à El Paso. 23 comparé à 1200, ce n'est pas bon non plus.
Il a déclaré qu'un mur a protégé El Paso, ce que le maire de la ville a contesté. Le locataire de la Maison Blanche a ajouté que les criminels font partie des personnes qui fuient vers le nord et que son gouvernement a commencé à obliger les demandeurs d'asile à attendre au Mexique jusqu'à l'audition de leur cas. Mais le flux de migrants a continué. Sur la côte du Pacifique, une vingtaine d'abris à Tijuana, au Mexique, accueillent les migrants, y compris les Haïtiens qui ont vécu au Venezuela et qui ont fui le chaos. Cela met à rude épreuve les ressources de la ville mexicaine, déclare Hugo Castro, un travailleur humanitaire.
If we combine all the ones in, there are deportees,
si on combine tous les déportés, les Mexicains déplacés, les Centra-Américains, les Haïtiens, les Africains commencent à arriver aussi, il est difficile de leur fournir un logement.
La demande de M. Trump pour un mur a été appliquée sur des sections de la frontière sud de San Diego. C'est une barrière de plus de 5 mètres de haut. Michael est garde-frontière.
C'est une barrière transparente, quelque chose que San Diego n'a pas eu auparavant, pour que les gardes-frontières puissent voir ce qui se passe du côté sud, savoir ce qui se passe nous aide à mieux comprendre la situation.
Elle dit que le nouveau mur peut empêcher des atteintes à la sécurité, comme celle survenue en novembre sur une section qui n'avait pas été modernisée. À Washington, les négociateurs républicains et démocrates ont trouvé un accord de principe qui devra encore être voté par le Congrès et approuvé par la Maison-Blanche pour éviter une fermeture partielle des agences fédérales. À Tijuana et dans d'autres villes frontalières du Mexique, les demandeurs d'asile attendent et espèrent toujours.
C'est la fin de cette édition, à la mise en onde de Michel Joseph, à la présentation Morgane Diriek et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Excellente soirée à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusée partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
VOA Afrique.